Le monde chez nous.
La plupart des enfants là étaient canadiens et puis j'ai réalisé que j'étais différent.
Le monde chez nous.
Nous n'adhérons pas exactement aux valeurs de l'individualisme, mais on compte beaucoup sur nos proches et sur la communauté pour du support.
Le monde chez nous.
On peut dire ex-femme, ex-mari, ex-conjoint, mais on ne dira jamais ex-frère, ex-sœur en fait.
Le monde chez nous.
Pour moi, de faire des empanadas, c'est une manière de souvenir de l'Argentine.
Le monde chez nous, avec Céline Gagnon.
Bonjour et bienvenue à cette toute dernière émission de la saison. Heureuse de vous retrouver pour ce grand voyage qu'est le monde chez nous, parce que notre périple radiophonique nous amène aux quatre coins de la planète par la voix, les accents et les récits de nos invités. Ensemble, nous allons à la rencontre de ceux et celles qui habitent et qui enrichissent la nouvelle francophonie internationale dans l'Ouest canadien. Alors, si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez qu'il est possible de réentendre chacune des 9 émissions de cette saison en vous rendant sur notre page web à ici.radio-canada.ca/le-monde-chez-nous en un seul mot. Parmi nos guides aujourd'hui, Marina Castillo, une Argentine à Vancouver, elle nous propose un voyage gustatif dans sa région natale. Francesca Gossin, une Libanaise qui intègre les principes humanistes de son enfance dans sa vie albertaine. Yared Nigusu, un artiste peintre éthiopien à Vancouver, récit d'un parcours jusqu'à la côte ouest. Et Setafan Louvong, un Manitobain de descendance laotienne, il partagera quelques réflexions sur son enfance au sein d'une famille immigrante. Bienvenue chez vous! C'est au Gabon que nous débutons l'émission aujourd'hui, le temps de découvrir quelques expressions courantes de cette culture d'Afrique centrale. Notre guide se nomme Jeff Daniel Nzememiyage. Il est originaire du Gabon et il vit à Prince-George depuis 2 ans. Bonjour, Monsieur Memiyage.
Bonjour, Madame Céline. Comment allez-vous?
Je vais très, très bien. Vous-même?
Je vais très, très bien.
Alors, Jeff Daniel, enfant, vous parliez le fan.
Effectivement, oui, je parle le fan. Donc, la communauté fan représente effectivement 35% de la population gabonaise. Donc, le peuple fan est un peuple réparti essentiellement entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale, une bonne partie du Congo-Brazzaville et même jusqu'en Sao Tomé-Principe, oui.
Alors, c'est une langue qui connaît un rayonnement assez large. Préserver sa langue, comme vous le faites, c'est un travail de mémoire important. On pourrait d'ailleurs en dire tout autant du premier proverbe que vous avez choisi de nous présenter.
Oui, je vous le confirme. Donc, le premier proverbe qui veut dire en fait « niamoureux à ne niamoureux », ce qui voudrait dire en français « les anciens restent les anciens ». Ça se résume en gros au respect dû aux anciens de par leur expérience de vie, de tradition, de beaucoup de choses, de culture, de savoir. Et n'oublions pas qu'en Afrique, le savoir se transmet aussi de façon orale essentiellement.
Donc, on honore les anciens.
Exact.
Votre deuxième proverbe évoque aussi les notions de respect, justement, et de loyauté filiale, je pense.
Oui. Effectivement, lorsqu'on parle, on dit en fond chez nous, mon oignon à ne mon oignon, ce qui veut dire en français, ton frère reste ton frère. Donc, ça veut dire, il faut l'aider, il faut le soutenir. Il ne sera pas toujours parfait, mais ça reste ton frère. On peut dire ex-femme, ex-mari, ex-conjoint, mais on dira jamais ex-frère, ex-sœur, en fait, en français.
Dans quel contexte est-ce que vous utiliseriez cette expression-là?
Ben, justement, dans le contexte où parfois il arrive qu'entre frères et sœurs, on peut avoir des divergences familiales. On n'a pas toujours le même point de vue sur, par exemple, la gestion, par exemple, du patrimoine familial laissé par les parents, par exemple. Ben, ce genre de proverbe nous apprend, en fait, à mettre de l'eau dans son vin, en fait, essentiellement. Donc, à savoir trouver une solution de compromis.
On va terminer avec un proverbe qui est empreint finalement d'humanisme, de beaucoup d'humanisme.
Oui, enfin, on a l'habitude de dire chez nous « Eburba dingowa, Eburba kabowa », ce qui veut dire En français, ceux qui te parlent, ce sont ceux qui t'aiment, ce sont ceux qui veulent ton meilleur, c'est ceux qui veulent que tu t'accomplisses. Donc, c'est très profond parce que ça nous pousse toujours à nous remettre en soi et à écouter effectivement les conseils, les suggestions de nos amis et même parfois de nos proches, de nos parents, en toute franchise.
C'est une expression qu'on prononcerait quand peut-être on entend un commentaire qui nous est adressé qu'on aime peut-être moins.
Exact, exact. Donc, vous savez, là, il y a un proverbe, un célèbre proverbe de Jean de La Fontaine qui dit « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Donc, ce proverbe-là, justement, d'origine fort, vient comme un peu contrebalancer effectivement ça en disant que attention, justement, parce que les personnes qui te disent toujours du bien, c'est attention, je ne dirais pas que ce ne sont pas tes amis, mais parfois, il faut aussi prendre le soin d'écouter des personnes qui ne pensent pas toujours la même chose que toi, peut-être qu'ils veulent te pousser, toi, à t'améliorer aussi. Ouais.
Est-ce qu'il y en a un parmi ces proverbes, ces expressions que vous utilisez plus souvent qu'un autre?
Le dernier. le dernier, ce qui est un proverbe plein d'humanisme, parce que, de par les fonctions que j'occupe au Cercle des Canadiens français de Prince-Georges, ça me permet toujours de me remettre aussi en cause et de donner le meilleur de moi-même dans l'exercice de mes activités afin de contribuer à la promotion de la langue française dans la ville de Prince-Georges et de rendre la communauté francophone à Prince-Georges plus épanouie.
Ouais, c'est sur ce commentaire fort inspirant, Jeff Daniel, Nezimé Miyagé, qu'on va se laisser. Merci d'être passé à notre micro.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Notre exploration des patronymes du monde nous emmène en Algérie cette semaine. Les noms, tout comme ceux qui les portent, voyagent dans le temps et dans l'espace. C'est le cas de cette jeune Algérienne devenue Françaskoise.
Je m'appelle Amira Amari. Je suis d'origine algérienne et je vis à Saskatoon. Mon nom Amira signifie « princesse » en arabe. Amari signifie « peuplé. Dans notre famille, on a tendance à faire beaucoup d'enfants là où on va. On a toujours été des voyageurs. On reste jamais dans le même endroit, comme des nomades. On est dans le désert, on est au nord de l'Algérie, on est dans l'est, l'ouest, et maintenant on est au Canada. Amira Amari a une résonance semblable. Beaucoup de gens me demandent comment cela est arrivé, et je leur dis que c'était juste une coïncidence, c'était pas prévu. Il y a beaucoup de gens qui me disent que mon prénom était pris de mon nom, mais c'est pas vrai.
À Winnipeg, je suis Patricia Bitu-Tchikoudi et j'écoute Le Monde chez nous sur Ici Radio-Canada, première.
Bazi,
On vient d'entendre Tammy Crest, une formation touareg dont le nom signifie « rassemblement ». Par sa musique, le groupe contribue à défricher les pistes entre le blues du désert et le rock de l'Occident. Il est des rencontres qui sortent de l'ordinaire et celle que va nous présenter Saïda Ouchaou, notre collaboratrice en Colombie-Britannique, est sans contredit de celle-là. Bonjour Saïda.
Bonjour Céline.
Alors le personnage s'appelle Yared Nigusu, il est artiste peintre, il est originaire d'Éthiopie et il s'est installé à Vancouver il y a 7 ans. Vous l'avez rencontré, que retenez-vous de cet échange?
Céline, on peut dire de Yared qu'il est l'exemple parfait du citoyen du monde. Il est toujours curieux, en fait, de rencontrer des personnes d'une autre culture que la sienne. Yared a d'abord fait des études en arts plastiques en Éthiopie, un choix pas facile, hein, mais qu'il a pu poursuivre grâce au soutien de sa famille qui s'est rangée derrière son choix. Yared a ensuite continué ses études artistiques en France. Il y fait une belle rencontre, sa future femme, une Française qui l'aide à maîtriser la langue de Molière. Ensemble, ils décident de quitter la France et finalement, le couple pose ses bagages à Vancouver. Au début de l'année, ils sont devenus les parents d'un petit garçon. Et après mes discussions avec Yared, eh ben, je peux dire sans me tromper que ce petit Gabriel sera piqué du même virus que ses parents, l'âme du voyageur curieux et attentif au monde qui l'entoure. Et pour ceux et celles qui veulent savoir en fait ce que crée Yared Nigusu, eh ben, vous pouvez vous rendre sur la page web de l'émission Le Monde Chez Nous.
Alors il a posé ses valises et ses pinceaux.
C'est ça.
Sans plus attendre, donc écoutons cette belle rencontre avec Yared Nigusu. Merci beaucoup Saïda Ouchaou.
Je vous en prie.
Ok, je m'appelle Yared, Yared Nigusu, je suis artiste peintre, je viens d'Éthiopie, mon histoire c'est un petit peu ça. En fait, je pense que j'ai un âme de voyageur. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on est né quelque part, donc on meurt là-bas sans avoir découvert la culture des autres. Moi et ma femme, je suis arrivé en France. En 2006, et puis on a vécu en France un petit peu, à peu près 3 ans. Elle aussi, elle est très voyageuse, donc on voulait partir quelque part. En même temps aussi, je voulais un peu, persuader mon carrière d'artiste. Donc je voulais me rapprocher vers soit l'Asie, soit l'Amérique du Nord. Donc on avait des opportunités pour aller, donc finalement on a choisi Vancouver. Vancouver, c'est une ville qui a beaucoup de potentiel pour l'instant au niveau de marché d'art. Les gens, ils investissent des millions de dollars dans leur maison. Et, chaque maison, ils ont des murs. À quoi ça sert, ces murs-là? Donc, la maison, c'est là où ça vous donne, en fait, le bonheur. En France, j'ai des tableaux qui montrent ma culture. C'est une période que j'ai essayé d'être l'ambassadeur de mon pays, de mon culture, et je montrais tout ça. Et après, j'ai évolué quelque part, j'ai essayé d'être libre. Ça ne sert à rien, en fait, un Éthiopien, en fait, qui va mettre en fait, chez lui les tableaux de New York, si ça ne lui parle pas, s'il n'a pas aucune expérience. Mais s'il a une expérience, ok. Mais ici, pareil, la même chose, c'est pour quelqu'un en fait, qui n'a jamais été en Éthiopie, qui n'a aucun lien, il peut apprécier, peut-être il y a quelque chose qui lui parle, il peut, mais je sais que ça ne va pas marcher beaucoup. Grandir en Éthiopie, pour moi, c'est... on n'a pas besoin de mettre, notre estimation très haut. Donc, vivre jour au jour. La façon comme on dit bonjour, comment ça a été la nuit, comment ça se passait? Tu as bien dormi? Tu as bien survécu? De quelque part, je pense que ça donne en fait ce sentiment. Donc, ça, c'est par jour, en fait, on dit 4 fois, 5 fois comment ça va, mais elle n'a pas le même sens, en fait, par rapport à l'heure, ça change. Le matin, comment tu as dormi? comment ça a été la nuit. Et les gens, ils s'expliquent, ah, j'avais un petit peu mal au dos, tu savais, je t'avais expliqué. C'est quoi la richesse, c'est quoi le bonheur en fait? Ici, si on voit en fait le pays, matériellement en fait, on a beaucoup, mais on est malheureux. J'ai choisi de toute façon d'être ici, mais chaque année en fait, j'essaye d'y aller là-bas et de profiter de mes amis. Et je vois de vrais sourires des gens, de vrais accueils et de vraies bagarres. Ici, hein, il n'y a pas assez de bagarres, c'est vraiment difficile. Dans le monde idéal, en fait, j'aimerais bien en fait, en Afrique, 6 mois et 6 mois ici. Mais il faut que j'ai intégré en fait, cette idée de ne pas chercher la richesse en fait, pour être comme ça. Et avec les moyens qu'on a, c'est possible aussi. Ça ne va pas être facile, mais c'est ça la beauté. En fait, si tout est facile, on n'aura plus le désir. Donc c'est mon désir, ce qui me fait vivre en fait, de rester ici pour l'instant. Mais demain, après-demain, il faut que je sois ouverte en fait, pour partir quelque part. En fait, ma femme, elle est assez ouverte. Et moi aussi, je suis très ouvert. Et surtout, on a beaucoup de respect, chacun. Il n'y a pas une culture stupide. Donc, si je pense que c'est utile, en fait, j'essaie de l'appliquer. Ma femme, en fait, quand elle va avec moi dans l'église, en fait, elle suit en fait, les règles. De cette église, en fait, la façon comme on s'habille, parfois elle le trouve très con, mais elle accepte. Donc il y a beaucoup de compromis. Moi, j'aime pas trop quand quelqu'un est très rigide et fier de son culture, parce qu'il faut aussi respecter, il faut aussi aimer la culture des autres. Donc ici, je me sens en fait qu'il y a assez de respect entre chaque culture. Donc j'espère que mon garçon, il va être assez ouvert. Ça m'attire en fait quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc j'apprends beaucoup et j'aime bien aller chez. En fait, c'est pas un voyeurisme, mais j'aime bien en fait comment les autres cultures, les autres personnes, comment ils vivent en fait chez eux. Donc j'ai hâte toujours d'être invité chez quelqu'un. Je suis fier de dire que j'ai des amis italiens, j'ai des amis asiatiques, j'ai des amis polonais ou tout ça. Donc c'est très marrant et c'est comme ça que le monde ça devient beau.
C'est effectivement hein, par le respect des cultures qu'on peut aussi approfondir notre sentiment d'appartenance. Et Yared Nigusu parle de son désir d'ailleurs de faire en sorte que son fils grandisse en étant ouvert sur le monde et ses cultures. C'est un sentiment que partagent certainement deux auteurs canadiens qui signent un ouvrage épistolaire à quatre mains intitulé « Coué, je te salue ». Conversation sur le racisme. Et dans cet ouvrage-là, le romancier et journaliste Danny Béchard et la poétesse Inoue Natacha Canapé publient une correspondance de 26 lettres qui se veut avant tout un échange et une réflexion sans compromis sur toutes les facettes du racisme. Danny Béchard se rappelle avoir été lui-même la cible de remarques racistes quand il était enfant. Et dans une entrevue récente, il fait référence à ses racines américano-gaspésiennes et il dit « Jeune, je me suis souvent fait dire « tu n'es pas un vrai Américain, pas un vrai Canadien ou un vrai Québécois, alors qu'est-ce que je suis ?» Coué, je te salue, conversation sur le racisme est publiée aux éditions Éco-Société et on a mis toutes les informations de cet ouvrage-là sur notre page web. Nendago no te siwo, nendago no te siwo.
mwen manwanik Et tout de man ki ti nim na duk Im rer ta go ke wa mit na luk O te manwanik Te mamu manwanik
Manda wanao Sake Paco and I come to reach you one man wanted.
Ça s'intitule Manwanik et c'est tiré de l'album Pois Mouna, le quatrième album solo de Florent Volant, cet auteur-compositeur-interprète québécois d'origine Innu. Pois Mouna signifie rêve en langue Innu, là où tout prend naissance, selon Florent Volant.
Ici, Jessa Michel Ziriga à Saskatoon, du nord au sud et de l'est à l'ouest, le monde chez nous, ça me parle.
Chaque semaine, nos invités nous guident dans la découverte de leur culture d'origine. La culture qui nous intéresse aujourd'hui a vécu de nombreux bouleversements politiques et sociaux au cours de son histoire. Je parle de la culture libanaise. Mon invitée se nomme Francesca Gossin. Elle est arrivée avec sa famille en 2012, ici au Canada. Elle poursuit actuellement des études en biologie à l'Université de l'Alberta, à Edmonton. Elle est également vice-présidente de l'association étudiante de l'université. Bonjour Francesca.
Bonjour.
Avec vous, donc, on va découvrir un peu des caractéristiques de la culture libanaise. Alors, vous avez d'abord choisi de nous parler de l'entrepreneuriat.
Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on apprend à un très jeune âge en observant les gens autour de nous, en voyant les différentes compagnies qu'ils ont commencées ou les investissements qu'ils ont faits, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur du pays. Il y a une petite anecdote qui est connue au Liban, c'est il faut être entrepreneur pour ne pas travailler pour le monde et pour être maître de soi-même. Donc, pour avoir le plus de contrôle sur notre vie que possible, si je peux dire ça.
Oui. Est-ce que c'est une valeur, ça, qu'on vous enseigne à l'école, au sein de la famille? De quelle façon est-ce qu'on vous transmet cette valeur-là?
C'est plutôt une transmission informelle. Et donc, on observe ce que les gens font autour de nous. On entend des différentes initiatives que nos proches ont prises et des nouvelles entreprises qu'ils ont commencées. Des investissements qu'ils ont fait dans les pays ailleurs. Et puis, on fait un peu par imitation. Donc, ce n'est pas quelque chose de formel qui est transmis, mais plutôt par observation et imitation.
Quand le pays qu'on habite vit des bouleversements importants, une situation de guerre, des conflits sociaux, le peuple, bien sûr, qui vit ces événements-là, doit puiser dans ses capacités humaines pour y faire face. Et on parle ici de résilience. Et cette qualité-là, c'est une autre caractéristique de la culture libanaise, je pense.
Oui, absolument. Le Liban est connu pour ressembler au phénix, puisqu'on se relève après les conflits, les nombreux conflits et guerres qu'on a toujours vécus. Et nous n'adhérons pas exactement aux valeurs de l'individualisme, mais on compte beaucoup sur nos proches et sur la communauté pour du support. En tant que peuple, on reconstruit le pays et puis on se relève et on continue.
C'est important. Une autre caractéristique de la culture libanaise évoque l'esprit de partage, justement.
Oui. Absolument. Alors là, par contre, c'est quelque chose qu'on nous apprend très explicitement. Donc, la générosité est une valeur très importante. C'est l'une des premières valeurs que l'on nous apprend en tant qu'enfant. Et on nous dit qu'il faut toujours partager ce qu'on a, même si on n'en a pas trop. Mmh. Donc, si vous, un jour vous visitez une famille libanaise chez eux, vous allez vraiment être plongé, immergé dans des mets, des boissons. Ils vont vraiment vous offrir tout ce qu'ils ont chez eux. Et puis, c'est quelque chose que l'on fait sans penser au bout d'un moment.
Est-ce que cette générosité-là, ce partage, se vit surtout autour, par exemple, de la table ou il y a d'autres aspects de la vie, par exemple, de famille, de la vie sociale, où, enfant, on vous a appris, c'est important d'être généreux et de partager?
Oui, absolument. Vu la situation sociale et les nombreux conflits qu'on a vécus, c'est plutôt l'esprit de partage de sa maison en entier.
D'entraide.
D'entraide. Ah, donc, oui. Il y a les personnes restées les unes chez les autres si, disons, ils habitaient dans des endroits qui étaient plus dangereux que d'autres durant la guerre. C'est quelque chose qu'on a gardé, même après les conflits, que notre maison est toujours ouverte à nos proches et à vraiment qui que ce soit qui en a besoin. C'est vraiment une valeur qui est incarnée.
En tout cas, c'est un sentiment, j'ai l'impression, qui vous habite toujours et que vous avez amené avec vous dans votre nouvelle vie en Alberta, au Canada. Ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler des caractéristiques de la culture libanaise et puis bon succès dans vos études, bonne continuité.
Merci beaucoup pour votre temps, ça m'a fait plaisir.
Quand je sais plus où j'en suis, quand à ma porte frappe l'ennui, quand mes rêves dorment sous le tapis, t'es là pour moi. Quand ma vie se couvre de nuages, quand je traverse les jours à la nage, quand l'espoir refait ses bagages, t'es là pour moi. Depuis que je suis haute comme ça, t'es là pour moi. La terre en va tourner sans toi, t'es là pour moi. Depuis que je suis haute comme ça, t'es là pour moi.
Elle s'appelle Aleka, de son vrai nom Aleka Farhoud Dion. Elle est montréalaise d'origine libanaise et à ce jour, on ne lui connaît qu'un seul album, un album éponyme qui est paru en 2011. Alors, le monde chez nous s'intéresse au point de vue des jeunes, qu'ils soient nés ici ou ailleurs. Nos invités nous font découvrir des facettes méconnues de leurs racines culturelles. Voici Génération d'aujourd'hui. Cet enfant de Louvong est né à Winnipeg au sein d'une famille immigrante du sud-est asiatique. Ses parents sont originaires du Laos, ce pays qu'ils ont quitté en 1980. Même s'il visite parfois sa famille au Laos, cet enfant de Louvong vit toujours à Winnipeg. Il a aujourd'hui 30 ans. Bonjour Seta, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Quand vous repensez à votre enfance, à quel moment avez-vous réalisé que votre vie était faite de deux cultures?
Je peux pas penser du moment exact, mais à un certain moment, tu regardes aux gens autour de toi et puis tu te rends compte que tu es différent. C'était quand je suis parti à l'école, puis la plupart des enfants là étaient canadiens, blancs, et puis j'ai réalisé que j'étais différent.
Vous avez 30 ans, donc vous avez déjà débuté votre carrière, vous êtes expert comptable.
Oui.
Dites-moi, est-ce que l'avis de vos parents sur les choix que vous faites, sur le plan professionnel ou personnel, est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous vous empêcheriez de faire quelque chose s'ils n'étaient pas d'accord?
Oui, durant mon enfance, mes parents ont toujours poussé l'importance de l'éducation pour m'avancer dans la vie. Et puis, ils ont fait certain que j'entrais dans une carrière où il y avait un futur. Alors, ça m'a beaucoup influencé dans ce que j'ai choisi comme carrière.
Alors, vous êtes près de vos parents, vous respectez leur opinion, mais en quoi êtes-vous différent d'eux?
On est différent dans la façon qu'on se comporte. Moi, je suis beaucoup plus ouvert. Mes parents sont beaucoup plus, old-fashioned.
Est-ce qu'ils sont plus traditionnels?
Plus traditionnels, c'est ça, oui. Moi, je suis un peu moins traditionnel. J'ai grandi dans la communauté franco-manitobaine. Tous mes amis étaient franco-manitobains. Ma copine est franco-manitobaine. Alors, on a des différences de culture.
Oui, tout à fait. Si un jour vous avez des enfants, qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre que vous avez reçu de vos parents?
Ça serait la nourriture.
Ah oui?
La nourriture, c'est vraiment, ça fait une grande partie de l'identité laotienne.
Oui. Qu'est-ce qu'on mange?
On mange comme le riz collant. Le riz collant, c'est vraiment une nourriture laotienne. Il n'y a vraiment pas d'autres cultures asiatiques qui mangent le riz collant.
Alors, faire à manger, ça vous garde près de vos racines. Est-ce que vous recevez vos parents à manger?
Oui, parfois.
Et puis?
Mais habituellement, c'est pas la cuisson laotienne que je fais pour mes parents.
Ah non?
Non.
Qui faisait à manger chez vous quand vous grandissiez?
C'était ma mère.
Alors, quand vous avez un problème ou vous posez une question, vous appelez votre maman pour avoir des petits conseils de cuisine?
Oui, tout le temps.
Ben, ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Seta, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer à notre micro.
OK, merci Céline.
Ici Sid Kassioui à Calgary. J'écoute Le Monde chez nous sur ICI Radio-Canada Première.
C'est le moment de mettre nos connaissances du français à l'épreuve. Véritable séance de remue-ménage pour ceux qui jouent le jeu avec nous, parce que les expressions et les termes qui nous intéressent sont issus de la francophonie internationale. Alors cette semaine, on vous demande ce que le terme « crawl » signifie.
Crawl. Ça m'inspire des bébites. Je sais pas, un cafard, peut-être.
Crawl. Je pense qu'une certaine nourriture. Comme, je pense que ça veut dire comme avoir beaucoup de faim, je pense.
Donc, j'ai vécu en Belgique et vous me demandez de deviner crawl. C'est un mot que j'ai jamais entendu. Donc, je peux pas deviner le sens. Peut-être dans un contexte, dans une phrase, je pourrais deviner le sens, mais... Pour moi, si je devais vraiment dire crawl, ce serait par rapport à la nourriture, mais je sais pas quoi exactement.
C'est très intéressant que tous nos participants, ou presque, aient fait un lien entre ce terme-là et la nourriture. Et ce qui me plaît davantage, c'est que cette personne a vécu en Belgique et elle ne connaît pas crawl. Alors, je dois vous dire que je suis moi aussi tombée un peu dans le panneau en pensant que crawl, c'était peut-être un petit cousin de ces fameux beignets du temps des fêtes. Vous savez, les croquignoles, en tout cas ceux que préparait ma grand-mère, ça sonnait un peu comme ça. Ben, crawl, c'est un terme qui est employé en Belgique. Se faire des crawls signifie se faire des bouclettes, se friser les cheveux. C'est un emprunt au flamand crawl, donc boucle de cheveux, néerlandais standard, on dit crawl, que l'on observe aussi dans les parlers romans de la Wallonie. Par ailleurs, en Belgique, on dit que lorsque la queue des cochons crawl,
c'est signe de bonne santé. Ah, c'est bien rythmé, c'est décoiffant un tout petit peu. Hein? C'est la musique du Congolais Pierre Quenders qu'on vient d'entendre et l'artiste Samito. Il est originaire du Mozambique et tous les deux collaborent sur l'album intitulé Popolipo. Il s'agit d'un remix du premier album de Pierre Quenders intitulé Le Dernier Empereur Bantou. C'est un album qui est paru en 2014. Pour sa part, Samito est la révélation Radio-Canada 2015-2016 en musique du monde.
Ici Sultana d'Adamoulak depuis l'île Maurice. Kumaou, moi aussi, moi écoute Le Monde chez nous, ici Radio-Canada Première.
Maintenant, cap sur l'Argentine et sa gastronomie. Si on connaît cette culture pour ses tangos élégants et raffinés, elle offre également une table copieuse. Marina Castillo, qui est une Vancouveroise d'adoption, a quitté l'Argentine il y a quelques années et pour retrouver les saveurs de sa région de naissance, rien ne vaut ce plat traditionnel qu'elle nous propose.
Je suis Marina Castillo. Je suis argentine. Ici à Vancouver, je suis un consultant du vin et je suis ici pour parler de les empanadas, qui sont un plat typique de l'Argentine. L'empanada est un petit chausson rempli avec la viande ou des poissons ou du poulet, selon les coutumes de les différentes régions en Argentine. Le nom empanada, ça veut dire avier avec du pain. Mais maintenant, on utilise la pâte feuilletée. En Argentine, on les remplit principalement avec de la viande parce que tout le monde mange la viande en Argentine. Et même en Argentine, elle est très différente selon les régions. Mais je veux parler de la région de Cuyo. C'est mon région et c'est très, très, très simple de faire. Les ingrédients essentiels sont de la viande. Quand on dit de la viande, c'est bien sûr de bœuf. C'est pas une autre chose. Alors la viande, c'est un bœuf haché. Et tu as besoin des oignons et des œufs durs. Un petit peu de sel, de poivre, farine et paprika au cumin. Pour le montage, on doit placer le farce au centre du disque de pâte. Quand j'étais petit, ma mère m'a appris à faire le plissé. Et la première fois, c'est très difficile. Quelquefois, le bord n'est pas plié bien. Et beaucoup de empanadas avaient explosé. Mais c'est comme ça que j'avais appris. Alors, en Argentine, tu peux avoir des empanadas avec de l'eau, avec quelque chose, mais ils sont mieux avec un bon vin. Et le typique vin argentin, c'est le Malbec. Et le Malbec a été introduit en Argentine par l'agronome français Michel Pouget. Le mariage est parfait, parce que généralement, le Malbec est sec, corsé et boisé, mais les tanins sont très doux et l'acidité c'est très faible. Pour moi, de faire des empanadas, c'est une manière de souvenir de l'Argentine, spécialement quand je suis avec des amis argentins. C'est la façon de connecter avec mon pays et avec des personnes argentines qui habitent ici au Canada.
C'est la formation sud-américaine Barro Fondo qu'on vient d'entendre, qui regroupe 4 musiciens d'Argentine et 4 musiciens d'Uruguay. Leur musique est une fusion de tango et de musique électronique qu'on appelle souvent tango fusion ou électro-tango. Et la voix de cette chanteuse, c'est celle de Julieta Venegas, une chanteuse américaine qui a grandi au Mexique. Alors, nous arrivons déjà à la dernière escale de l'émission, le moment de notre petit sondage d'opinion sur les us et coutumes de nos auditeurs, histoire de voir s'il existe des différences culturelles sur nos façons de vivre le quotidien. Et cette semaine, on demande à 2 auditrices de nous dire si elles préfèrent les débats animés, où il est acceptable de hausser le ton, ou bien une discussion polie, histoire de ne pas froisser son interlocuteur.
Je m'appelle Camille Feyreisen, je vis à Edmonton depuis bientôt 2 semaines et je suis d'origine française. Alors je préfère une discussion polie pour ne pas froisser plutôt qu'un débat animé en haussant le ton. Parce que je pense que généralement un débat trop animé ne donne pas vraiment résultat à de l'écoute. On est plutôt tendance à se crier dessus les uns sur les autres et à parler plus fort pour avoir son ton qui dépasse celui des autres. Après, une discussion polie, ça peut être bien, mais des fois on a aussi du mal à se faire entendre, je pense, quand on reste un peu trop poli et quand on parle pas assez fort. Ça dépend des débats. Nous en France, les débats politiques, c'est rare qu'ils soient des discussions polies. Généralement c'est des débats animés et on hausse tous le ton, encore plus quand on est en soirée entre amis.
Je m'appelle Sarah Murphy, je vis à Edmonton depuis 3 ans et je suis d'origine québécoise. Un débat animé en haussant le ton ou une discussion polie pour ne pas froisser. Moi, je dirais que je suis plutôt une hybride entre les deux. Une discussion polie pour ne pas froisser, c'est mon premier réflexe. Mais comme j'aime bien dire, on garde toujours une main de fer dans un petit gant de velours parce qu'évidemment, on est Québécois, on aime dire notre opinion, on aime chialer. Mais hausser le ton, c'est un peu moins mon genre. Malgré qu'avec un petit verre dans le nez, la voix porte beaucoup. Ouais. Je suis vraiment un mélange des deux. Puis dans ma famille, bien, ça parle, on se coupe la parole, mais on se manque jamais de respect. On n'ose pas souvent le ton non plus. On va parler fort, on va déranger, on va avoir les oreilles qui vont sciller, mais on se crie pas après, non, jamais. Fait que, ouais, je dirais plutôt que je suis vraiment en discussion polie, mais, comme je disais, avec une bonne main de fer, dans un beau gant bien doux de velours.
Finalement, ce n'est peut-être pas tant le volume de la voix que le langage corporel qui a de l'importance.
On a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum, quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends des kilos des tequila, je chante des chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum, boum boum. Ta mère, elle a failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum, dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum, et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Et c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boum boum boum. S'aimer comme ça c'est pas vulgaire, on a tout. Ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler, y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Touloum. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. S'aimer comme ça c'est pas. Quand toi et moi.
Il s'appelle Mika, auteur, compositeur, interprète français d'origine libanaise et Boum 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 se retrouve sur son troisième et plus récent album. Alors c'est ainsi que se termine cette deuxième saison de l'émission Le Monde Chez Nous. Avant de vous quitter, je vous invite à visiter la page web de l'émission à ici.radio-canada.ca/Le Monde Chez Nous en un seul mot. La page compte une belle galerie de photos et de courtes capsules vidéo qui vous feront découvrir d'autres facettes de nos invités. Je tiens à remercier l'équipe qui m'entoure dans cette belle aventure, Angelina Tileman, réalisatrice associée, le réalisateur-coordonnateur de cette émission est Daniel Touga, nos collaboratrices dans l'Ouest, Joanne Lucie Demers à Winnipeg, Pascal Bouchard-Dubé à Saskatoon, Marie-Ève Dussablon à Edmonton, Pierre Beaudoin à la réalisation des capsules vidéo, Mathias Wolfson à la technique et à la mise en onde, Mylène Briand et Dimestre. Le Monde Chez Nous est une idée originale de Saïda Ouchaou. Elle est également collaboratrice en Colombie-Britannique. Au micro, Céline Gagnon, j'ai également le plaisir de réaliser cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Portez-vous bien.